Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Angers pour un nouveau pédalo, une émission à nouveau consacrée à la musique ce soir. Puisque si pendant le confinement nombreux sont les artistes à avoir choisi de reporter la sortie de leurs albums, ce n'est pas le cas de tout le monde, et en particulier pas celui de Nerlof, musicien bien connu des Angevins, dont le premier EP solo, intitulé Je vous aime tous, est sorti le 10 avril dernier. Nous avons donc eu l'occasion de revenir dessus et d'en discuter un peu plus. Suite à cette interview, vous pourrez écouter une chronique d'Alexis qui, au cours des prochaines semaines, se penchera sur certains pans de la culture underground et commence dès ce soir en nous parlant du monde des fanzines. Ça sera donc pour la fin de cette émission, mais je vous laisse écouter tout de suite la discussion que nous avons eue un peu plus tôt avec Nerlof. Je suis au téléphone avec Florent Vincelot, que vous connaissez sûrement plus sous le pseudonyme de Nerlof, figure émérite de la scène musicale angevine, que l'on a pu voir aux côtés de groupes comme Sheraf, Sainte-Carole ou encore Vedette, mais aussi derrière le comptoir du Jokers ou régulièrement sur scène aux côtés d'autres artistes à l'occasion de featuring. Il a sorti son premier EP solo Je vous aime tous le 10 avril dernier, ses titres composés avec Atome, ancien de C2C et de BitTorrent, qui avait également travaillé sur l'album Malpoli de Rizinski, occasion à laquelle il s'était d'ailleurs rencontré. Salut Nerlof.
Salut.
Ça va faire presque 2 mois que l'EP est sorti. Est-ce que t'es content des retours que tu as eu jusque-là?
Ouais, c'est cool. Il y a pas mal de bons retours. Des retours surprenants, des retours qu'on espérait qu'on n'a pas eu. C'est marrant de sortir un disque. Hein. On s'imagine des retours et en fait on a des choses assez différentes.
Qu'est-ce que vous attendiez par exemple que vous n'aviez pas eu et au contraire des choses qui vous ont surprise?
Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? On n'a pas eu les Arocs qui suivaient vachement sur Vedette et tout. Donc là on les a eu un petit peu quoi, mais ils n'ont pas forcément fait de papier plus que ça, machin. Puis on a eu genre Libération, on pensait pas qu'on allait avoir un truc comme ça, ou Nico Saliagas qui partage le morceau, genre le truc. Genre. C'est plutôt rigolo.
L'EP est sorti aussi en plein confinement. On sait que pendant cette période, il y a eu beaucoup de sorties qui ont été repoussées. Vous êtes collé au plan que vous aviez pour la sortie?
Ouais, clairement. Bah ouais, on s'est dit que ça allait être cool aussi de sortir un EP au milieu de tout. Sur Internet, c'est un peu la profusion de live stream, de guitare, voix, machin, des trucs. Plus personne ne sortait plus rien. On entendait que des trucs qu'on avait déjà entendus. Donc on s'est dit, vas-y, on garde le cap de sortir l'EP et de proposer un projet qui s'est fait avant le confinement, quoi. Pas un projet de confinement pur.
Puis ouais, finalement, c'est vrai que le mélange avec des mélodies assez planantes et puis des textes assez forts, ça colle plutôt bien à la période.
Ouais, bah carrément. Idéalement, c'est des morceaux, ils ont tous été écrits il y a 2 ans, pour la plupart, dans les dernières années, donc ça aurait été cool que ça sorte même encore avant ça, même avant le confinement, même avant le virus, ça aurait eu un impact un peu plus rigolo, je pense.
Les textes t'avais écrits il y a 2 ans, toi ça s'était fait, donc t'avais rencontré Atome quand t'avais fait le feat sur l'album de Rizinski, c'est ça?
C'est ça, on s'était rencontrés en 2011 la première fois avec Atome, on s'était croisés quoi. Et puis on avait sympathisé, mais on s'est vraiment revu. Puis on s'est revu quand il a réalisé en effet l'album de Rizinski. Quand Pepso m'a invité sur le featuring, parce qu'on est des vieux copains de lycée et on n'avait jamais fait de trucs ensemble, mais c'était l'occasion. Et puis voilà, il a kiffé Atome ce que j'ai proposé. Il m'a invité sur son projet, sur son nouveau projet Parade. Et puis après on a fait plein de morceaux. Et puis au bout de 10 morceaux qu'on avait fait, on s'est dit on va faire un truc avec ça. Et puis c'est devenu mon projet quoi. Parce que c'était ma patte qui était la plus présente. Et puis voilà.
Et toi t'en étais où quand tu l'as rencontré au niveau de tes autres groupes? Il y avait des dates encore à droite à gauche ou t'avais prévu de partir sur un projet solo dans tous les cas?
Non, c'était, on était encore, euh, on était encore fond, il y avait pas mal de dates de vedettes, Sainte Carole, ça reprenait un peu, enfin c'était cool à ce moment-là. C'est après qu'on a commencé à avoir de moins en moins de dates et de moins en moins d'actu, puis que du coup, ça a pris naturellement le relais en fait.
Il n'y aurait pas eu cette rencontre avec Atom, parce que comme tu l'as dit, ça s'est fait naturellement et ça a permis d'aboutir à ça. Il n'y aurait pas eu ça, tu aurais quand même eu l'envie de faire un projet qui aurait eu. Ça aurait pu être quelque chose d'un peu similaire qui serait sorti finalement, ou ça aurait eu une toute autre tournure.
Ce genre de truc, ça fait pas mal de temps que je fais des trucs comme ça, que j'ai envie d'en faire en tout cas, que même avec Laurent à l'époque, mon camarade de vedette avec qui j'ai monté vedette à l'époque, on avait pu amorcer des trucs comme ça. Même toi, pour la petite histoire, j'avais fait un track avec Georges Gelters il y a genre plus de 10 ans, qui était un peu comme ça, tu vois, un peu rap machin. Non, c'est un truc, mais après il fallait que je tombe sur la bonne personne. Mais même avec François, on avait amorcé des trucs, même des morceaux similaires il y a 4-5 ans, mais ça aboutissait jamais vraiment. C'était que des petits coups d'épée comme par-ci par-là, quoi. Et là ce qui a amené le projet, c'est qu'il y a eu plein de morceaux, quoi. On a fait plein. Au début, on faisait un morceau, on disait ok c'est cool, on continue, on fait un autre, et ainsi de suite, on a fait plein de morceaux. On s'est dit ok c'est cool, là faut réfléchir à un truc. Et en plus de ça, c'était au moment où en effet Vénette, il se passait plus grand chose. Du coup je me suis dit bon, je vais me concentrer un peu là-dessus.
Et ça s'est fait comment sur donc ça a mis quelques années à se faire cette EP. C'est le fait que chacun ses emplois du temps, faut se voir pour avancer. Ça s'est fait à quel rythme? Et toi, est-ce que finalement ça te convenait aussi comme rythme de travail?
Non, j'aurais préféré que ça se fasse beaucoup plus vite, mais avec le planning de chacun, c'était de l'ordre de une session par mois, une session de 2-3 jours par mois, quoi. Donc on se retrouvait en général, bon, on bossait quand même chacun de notre côté, on s'envoyait des trucs, mais on concrétisait vraiment les morceaux, c'était en session chez lui, quoi. On se mettait 2 jours, 2-3 jours dans son studio, et puis là on enregistrait les voix, là on faisait vraiment, on allait au bout des morceaux, on terminait les arrangements, on s'est sur les mix. Et en fait, ce qui est vrai, c'est des sessions de 2 jours tous les mois, tous les 2 mois, et ça se trouve en fait en 3-4 mois, on aurait pu, parce qu'en fait, on est parti, il y a des bases de morceaux qui sont des morceaux de parade, et des bases de morceaux qui sont des morceaux de moi, donc on n'est pas parti de 0-0, c'est pour ça que c'est assez, enfin, dans l'absolu, c'est assez vite, quoi. Si on met juste toutes les sessions bout à bout en mois ou deux, on avait déjà 10 morceaux, quoi.
Et en partant de ces bases-là, des morceaux de l'un et l'autre, après, ça a été retravaillé, je suppose, ensemble, pour arriver à quelque chose qui soit quand même plus homogène que ce que faisait l'un ou l'autre.
Ouais, carrément. C'est ça, en fait, on prenait les morceaux, et puis après, on a tout déconstruit et tout reconstruit.
Et en termes de matériel, vous travaillez sur quoi alors? C'était plutôt machine, plutôt musique assistée par ordinateur, c'est un mélange des deux?
Eh ben, c'est plutôt, lui, c'est un champion de Pro Tools, hein, donc c'est un vrai producteur, quoi. Il a tout ce qu'il veut faire sonner, il l'a. Moi, dès que j'ai envie d'entendre quelque chose, je lui dis, j'ai envie d'entendre un truc qui sonne pas, et puis il peut le faire. Donc c'est un mélange de ça, et puis des moins de morceaux, il y avait aussi, tu vois, les basses, des claviers, et des guitares aussi. Donc c'est un mélange de plein de choses.
Et ouais, donc toi, t'as fait de nombreuses années de la basse, des claviers, enfin t'as 15 ans derrière de musique, et là de passer sur ce format-là, enfin toi, t'as appris des choses aussi sur Pro Tools, ou il y a des choses que Atom faisait de son côté, ou toi, ça t'a permis aussi de bosser un peu plus sur l'aspect électronique de la musique?
Non, ça j'ai pas trop creusé le côté production technique pure. C'est quand même une grosse usine à gaz, et c'est vrai que je me suis équipé, moi je transforme sur mon petit logiciel Ableton que je maîtrise même pas 20% des capacités du truc, mais ça me permet de bricoler des morceaux, quoi. Donc non, mais c'est un peu chacun son domaine, quoi. Studio, si tu veux, c'est plutôt lui la tête dans l'écran, et moi je ferme les yeux et je suis plutôt les oreilles. Après lui aussi c'est les oreilles, évidemment, mais on va dire que ce qui nous a permis d'avancer assez vite, c'est que je savais à peu près ce que je voulais entendre et ce que je voulais pas entendre. Et du coup, c'était assez cool. On est allé, ça nous a permis, mais même lui, il a découvert une façon de travailler qui était cool, et moi aussi, enfin, on s'est vachement complémentaires.
Et dès le début, tu savais que tu partirais sur des textes uniquement en français pour cette EP?
Ouais, carrément, c'est pas l'idée. Ouais, c'était ça, pareil, c'était naturel, le français, c'était de plus en plus... C'était de plus en plus le cas, et puis, ouais, c'était c'est comme un challenge en fait au début d'écrire en français, et puis maintenant ce serait plutôt un challenge d'écrire en anglais.
Moi je trouve ça cool, ouais. Je trouve que c'est vraiment une prise de risque un peu plus grande que l'anglais, avec la possibilité en français que ça soit tout de suite un peu plus kitsch. Toi, ça t'a demandé plus de travail ou finalement ça s'est fait assez naturellement aussi?
Ça s'est fait très naturellement, sans vraiment se poser de questions, juste avec une exigence, mais qui n'est pas l'exigence ultime, parce que mes specs ils sont hyper simples, mais juste une exigence moi de ce que j'aime et ce que j'aime pas, quoi. En fait, j'ai peu de choses qui me plaisent en français, et moi, ma culture elle est essentiellement anglo-saxonne, donc c'était plutôt quand j'écris des textes, je sais tout de suite si ça me plaît ou ça me plaît pas. Il y a pas beaucoup de travail sur les textes, clairement c'est plutôt ça sort comme ça, c'est un premier jet, et j'essaie de garder cette fraîcheur, ce côté genre très cru, justement j'ai surtout pas envie de faire des textes littéraires, je veux que ce soit très brut.
Et donc après, ouais, par la suite, j'ai cru comprendre qu'il y avait Chahut, avec qui t'as fait un morceau aussi récemment, qui s'est joint à vous dans le travail de groupe. Est-ce que j'ai bien compris, et quel rôle il a dans le projet?
Ouais, Chahut, c'est un mec qui compose des super morceaux, déjà au sein de Dogs for Friends, et puis avec son projet solo. Moi, je trouve ça mortel. Du coup, on se fréquente depuis un an, et puis on a commencé à faire naturellement des morceaux ensemble, et puis ensuite, j'ai envoyé des trucs à Tom, on a dit, tiens, ça c'est quand même vraiment bien. Donc, on a un feat ensemble, mais qui n'est pas sorti, qui sortira sur le prochain EP. Et puis du coup on a continué à faire des morceaux, on a fait plein de morceaux avec Chahut, je pense qu'on sortira un petit truc, un petit EP, je pense, je sais pas quand, dans l'année j'espère, et puis on fait des morceaux, puis les fans me proposent des morceaux, voilà, des compos à lui, des trucs, et si ça me plaît, ça a été le cas, là, il y a deux morceaux là, récemment, ça repasse en session chez Atom, où on fait des arrangements, où on déconstruit, on reconstruit avec Atom tous les deux. Et voilà. Du coup, en fait, on l'a mis dans la boucle des compositeurs du projet, quoi. Carrément. Cette boucle, c'est pas une boucle fermée du tout. Justement, quoi, c'est ça qui est cool, c'est que moi, avec ce projet-là, dans Vedette, j'ai gardé la mainmise sur la composition, même si le dernier EP, on l'a composé à trois. J'ai gardé quand même la mainmise sur la composition. Et là, sur ce projet-là, je garde la mainmise sur la composition, mais j'accepte les idées des autres, quoi. Ça m'intéresse vachement de partager et d'échanger sur des compos d'autres gens. Si ça m'inspire, en fait. Comme un rappeur.
Et il y a d'autres personnes qui gravitent autour du groupe, ou pour l'instant vous êtes vraiment tous les trois?
Carrément, il y a Simon le batteur sur scène, Simon qui était le batteur de Vedette Sainte-Carole. Il y a François Laridon qui est le sondier, qui est le troisième sur la route pour les concerts. Pour l'instant la route elle est assez courte, on a fait deux concerts, mais c'est vraiment, on est vraiment, il y a le côté studio qui est Atom. Avec Atom et puis Charles, du coup on peut dire qu'il est aussi dans la boucle, et il y a le côté sur la route avec Simon et François, c'est deux équipes différentes, et puis après il y a Cantos qui gère le management, qui est à Paris, qui fait un super taf, qui est hyper cool, et puis récemment on n'a pas encore eu le temps de vraiment commencer à bosser ensemble, mais il y a Biglou avec Guillaume qui va essayer de nous trouver des dates, mais bon, ça s'est décidé juste avant le confinement, donc tu vois bien, c'était un peu galère, une seule période pour faire les concerts.
C'est vrai que même pour toi qui est aussi en plein dans le monde de la musique, dans le monde de la nuit aussi à travers le Joker, ça reste inquiétant comme situation, l'absence de concerts un peu jusqu'à nouvel ordre, et plus généralement le fait que potentiellement c'est des situations qui pourraient se reproduire et pousser à réfléchir à comment on fonctionne pour ce qui est des musiques actuelles.
C'est inquiétant, je sais pas si c'est tant inquiétant que ça, là c'est plutôt hyper frustrant, j'ai envie de dire, ce qui se passe en ce moment. Après pour la suite, je me suis pas trop projeté, de toute façon globalement je me projette assez rarement, donc là c'est vrai qu'en effet si ce genre de situation ça se reproduit, va falloir inventer des façons de faire vivre la musique live, mais c'est déjà en train de se faire, toi, là, demain jeudi on fait un concert là au 4, un concert filmé en fait, donc ce sera, tu vois, je pense la semaine prochaine, je sais pas quand, ce sera sur internet, et c'est une façon de faire un vrai concert déclaré, machin et tout, enfin pour, on n'est pas intermittent, on va pas François, mais ça permet de faire en effet des vrais concerts, mais alors par contre en effet ça marche que pour les trucs subventionnés, les trucs publics, là c'est l'université donc ça marche, mais en effet pour les structures privées ça peut être très très compliqué, et ça c'est pas compliqué d'inventer des choses pour l'instant, je sais pas.
Et je reviens un peu sur l'aspect live, donc tu l'as évoqué, c'est vrai que t'es avec un batteur, et donc j'étais à la release party en novembre dernier, et c'est vrai que c'est vraiment cool, ça donne vraiment une autre dimension un peu au morceau d'avoir une vraie batterie et pas d'avoir juste une boîte à rythme. Toi c'est un aspect que tu voulais développer et peut-être avoir d'autres sonorités et une autre énergie que l'album.
Bah carrément, moi depuis que j'ai vu Dan Deacon en concert, c'était en 2015 ou comme ça, à la route du rock, où il était seul avec ses machines, avec un batteur complètement fou, j'ai su que j'avais envie de faire ça un jour ou l'autre. Ouais, je considère que la batterie c'est un plus bel instrument, enfin, quand t'as un beau batteur sur scène, c'est merveilleux quoi. Ça fait vraiment le métaf, c'est magnifique, c'est ce que j'aime, donc je voulais vraiment faire un truc comme ça, et puis un truc très épuré, avec juste un batteur, sur sa mortelle. Ça serait cool.
Et ça vous a pris longtemps à travailler l'aspect scénique, comment ça se passe pour les batteries, c'est lui qui compose, c'est toi qui as adapté, ou pareil, vous avez bossé ensemble?
Ah non, c'est lui qui s'adapte en fait, hein. il a appris les morceaux en fait, il a arrangé certaines parties, il a aussi arrangé, du coup, il y a des morceaux, tu vois bien, en live qui sont un peu, qu'on a réarrangé, donc là, en effet, il met sa patte encore plus, le batteur. Mais sinon, non, il a, c'est tenu à cœur de, parce qu'il trouvait ça assez cool, enfin, il trouvait les batteries du disque super bien, donc il s'est adapté pour pouvoir les jouer. Et puis, mais on partage la même vision de la batterie avec Simon, donc c'est cool, c'est un truc, ça marche super bien, on s'entend très bien sur les plans, sur les trucs, on a la même chose.
Et là, plus récemment, donc t'as aussi sorti un feat avec Zenzile. Comment ça s'est fait? C'est quelque chose qui était un petit peu prévu, ou ça s'est fait un peu spontanément aussi?
Le morceau, ça fait peut-être 6 mois que Vince Zenzile me l'a envoyé, et je prenais, enfin j'avais écouté, je trouvais ça cool, j'avais commencé à checker des trucs, mais j'avais pas pris trop le temps, j'étais sur d'autres trucs, et puis là avec le confinement, j'ai eu le temps de faire plein de choses, et notamment ce morceau. Et du coup j'ai fait ça, je l'ai envoyé, et puis après ça allait assez vite, tu vois, deux semaines après, en même temps on faisait le petit clip, et puis ça sortait la semaine d'après, quoi, tu vois, donc ça s'est fait très spontanément en fait, quoi. Il y a eu un reste de temps entre le moment où il m'envoie le morceau et le moment où il est sorti, mais ça c'est quand je me suis mis, quand il y a eu un retour, quoi, je l'ai renvoyé, et puis après c'était parti, et ça s'est fait en 3 semaines.
Et c'est marrant, parce qu'à la fois on retrouve vraiment ta voix et les sonorités que ça peut amener, mais en même temps c'est vraiment sur une production dub qui est pas du tout celle de l'EP, ce qui fait un décalage qui est assez rigolo. Toi ça t'a pareil, François, comment t'as vu ce truc?
Moi ça m'amuse, ça m'a trop fait kiffer, hein. C'est un truc qui me fait bien marrer, d'autant plus que j'ai tendance à rigoler un peu avec ça, enfin, j'aime bien faire des blagues sur le reggae, dub et compagnie. Je trouve ça encore plus marrant de faire un morceau de dub avec en plus Zenzile, c'est des copains. Non, je les connais pas tous très très bien, mais j'en connais certains, c'est des copains. Et c'est un truc que j'ai envie de faire depuis un bout de temps, et même qu'on avait commencé à amorcer, et je te dirais même que si on avait eu plus de temps avec Sankara, on aurait déjà fait un disque dub, c'est évident, parce qu'on adore ça, et ça nous fait marrer, et plein de fois on répète, on jamme et on fait des trucs pour rigoler. Et je pense que si on faisait avec un peu de sérieux, ce serait cool. Donc c'est un truc qui est kiffant, mais c'est pareil, bah, tu vois, le reggae, le dub, c'est une musique, j'aime bien m'en moquer, mais en fait, quand c'est bien fait, je trouve ça énorme. J'aime peu de choses, c'est comme le texte en français, j'aime peu de choses, mais quand ça me touche, et c'est pareil pour le reggae et le dub, donc ça me plaît.
T'as des coups de cœur comme ça à partager, alors, en dub et en reggae, hein?
Eh bah, carrément, on m'a fait écouter Big Aranx, qui est quand même un truc assez fat, en fait, moi je connaissais pas, mais on m'a dit, mais tiens, écoute, en plus ça me fait penser à toi. Alors je pense que c'était juste la coupe de cheveux, parce que je vois, y a pas trop de points communs, mais j'ai trouvé ça hyper cool. Toi, t'enlèves, à mon sens, il faut juste enlever les petits gimmicks un peu clichés de chanteurs américains, je trouve que ça tue, quoi. Je trouve que ça tue, donc ça c'était ma petite découverte assez cool. Chaton, j'adore, je trouve ça mortel. Justement, Chaton, je trouve qu'il a ses prods dub, elles sont énormes, et puis il est pas dans les mimiques clichés de chanteurs de la guerre français, qui est dans le mimétisme, tu vois bien, des petits trucs, c'est pas de trucs comme ça, quoi. C'est parfait, ça me parle bien, Chaton.
Forcément, c'est des gens qui t'es proches, mais c'est vrai qu'on retrouve Steph sur l'album. Toi, on t'a vu aussi l'été dernier sur scène pour Odor. Vous aviez fait un morceau aussi avec Joe Berry. Toutes, euh, toute cette clique là, c'est important pour toi de maintenir ces liens avec le reste de la scène du Angers Village.
Ouais, c'est surtout que c'est Angers, c'est tout petit, il y a plein de gens cool, plein de talents. En fait, ça permet juste de faire plein de choses différentes. Moi, je pourrais pas me contenter de faire juste un style de musique. C'est trop riche, la musique, pour faire juste un style et de fréquenter plein de gens différents. Ça t'amène aussi à faire des choses différentes. Donc ça, c'est hyper cool. C'est hyper cool.
Et pour la suite, alors, donc t'es en train de chercher des dates, mais c'est compliqué. Et donc t'es déjà sur le prochain EP, à la fois dans la continuité de celui-là et à la fois donc avec Chahut, c'est ça?
Alors, à la fois, le prochain EP, on ne sait pas trop quand il sortira, mais je pense soit en janvier, peut-être même avant, d'ici la fin de l'année. Pour les dates, on va voir comment ça se décante un peu, là, au niveau des salles de concert, des petits festivals, des trucs, voir si y a moyen de jeu quand même, et si Guillaume, il a trouvé des petites dates. Et puis, en effet, sur le prochain EP, donc, il y aura un feat avec Chahut, il y aura un feat avec... Après, je sais pas, en fait, il y a plein de morceaux qui sont en attente, donc je peux pas te dire exactement, on n'a pas encore sélectionné les morceaux qui allaient sortir, mais il y aura sans doute le feat avec Chahut, il y aura sans doute un des morceaux, voire deux, qu'il a composé, qui seront dessus, voilà. Donc, ouais, carrément, de toute façon, il fait partie de l'équipe, hein, c'est sûr.
Bon, on verra bien pour la suite alors, et puis en espérant se revoir sur scène dans pas trop longtemps. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Je t'en prie, à plus, à bientôt.
Et on écoute tout de suite, non pas un des titres de l'EP, mais le morceau sorti un peu après, réalisé avec Zenzile, c'est donc Nerlof en featuring, et ça s'appelle « Après ça ».
Faire la fête. Forcer sur ce qu'on aime sans se prendre la tête. On verra demain si on a bien fait quand même. Si le vin qu'on avalait, il valait la peine. Qu'il faut qu'on arrête. C'est toujours au début que c'est bien, que c'est chouette. À un moment faudra qu'on revienne sur terre. Sinon ça va casser de la pire des manières.
Le Pédalo sur Radio Campus Angers.
De retour sur Radio Campus Angers, toujours dans Le Pédalo. Il est temps maintenant de laisser la place à Alexis pour sa chronique autour des cultures underground et qui nous parle aujourd'hui du monde des fanzines.
Le Mans, 30 novembre 2019. Une quarantaine d'exposants se sont réunis à l'école des Beaux-Arts du Mans pour la première édition du festival Grand Print. Les visiteurs, venus en masse, s'agglutinent devant les nombreux stands, feuilletant de drôles de publications étalées négligemment sur de petites tables. Bienvenue dans l'univers du fanzine. Fin des années 70, le punk déferle sur le monde, les jeunes crient nos futurs et de drôles de magazines se passent de main en main dans les clubs sombres de Londres. Le fanzine, plus connu sous son diminutif du zine, est alors en plein essor. Slash, Sniffing Glue en sont les meilleurs exemples. Symbole de l'époque do it yourself, le zine est une publication réalisée à la main à partir de collages, d'écritures ou de formes manuscrites et reproduit à petite échelle par photocopie. Son existence est en réalité plus lointaine et certains notent l'année 1930 comme acte de naissance avec la publication The Comet qui publia à l'époque des correspondances de fans de science-fiction. Publication souvent militante et engagée à ses débuts, il se diversifie et touche le milieu du cinéma, de la BD, de la mode, mais aussi du sport, notamment chez les supporters de foot à Liverpool ou Manchester par exemple. On le partage, on l'échange, on les collectionne précieusement. Le zine devient un objet culte d'une jeunesse engagée et libertaire. La hype retombe à la fin des années 80 pour mieux réapparaître dans les années 90 et 2000, notamment avec l'émergence du Riot Grrrl, mouvement musical et féministe. On estime alors qu'environ 40 000 zines sont publiés en 93 en Amérique du Nord. On le retrouve aussi chez les skaters, les amateurs de techno, mais aussi dans les milieux LGBT. Aujourd'hui, les zines sont plus diversifiés que jamais. L'essor d'Internet a contribué à rendre leurs coûts de production presque nuls et simplifier leur diffusion. Apparaissent notamment durant cette période les webzines. De nombreux festivals sont aussi créés partout dans le monde, certains ouvrent des librairies qui lui sont entièrement dédiées, comme Disparate à Bordeaux. Des associations, comme la Fanzinothèque à Poitiers, se lancent quant à eux dans l'archivage et la conservation des zines. Ce dernier est aujourd'hui associé à l'autopublication et la micro-édition, et ses méthodes de production ont encore évolué. Il est imprimé en réseau, en sérigraphie ou directement dessiné à la main, actant sa transformation en objet d'art, certains critiquant au passage sa fétichisation et son côté marketing. Malgré tout, sa popularité est toujours aussi élevée et le soufflet n'est pas près de retomber. Voilà, vous en saurez un peu plus sur cet objet iconique, vous pouvez dès à présent vous munir de papier et d'une imprimante. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Point Culture.
Merci à Alexis pour cette chronique. Il est quant à nous déjà l'heure de nous quitter. Merci à Nerloff d'avoir été présent pour cette émission. Merci donc à Alexis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée à toutes et à tous. Et ce soir, vous retrouvez La Mine, votre émission de rap hip-hop. Et quant à nous, on se retrouve demain pour la fin de cette première semaine de Pédalo. Très belle soirée à toutes et à tous.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.